Les enseignements de Rabbi David Feinstein, il a aussi sont particulièrement intéressants d'après moi. La paracha, elle commence par Ve'elé Hamishpatim. Il y a un vav qui nous relie avec la paracha précédente. Alors, il lui dit que Ribbono shel Olam a dit à Moshe Rabbeinu, dans la paracha précédente, je t'ai donné les chukim, c'est-à-dire les principes généraux. Aseret Hadibrot, c'est les principes généraux, puisque on peut déduire, c'est un travail qu'a fait Rav Saadia Gaon, de déduire, montrer comment toutes les mitzvot se rattachent aux 10 paroles d'un Aseret HaDibrot. Donc c'est les chukim, les principes généraux. Et maintenant, dans cette paracha, je vais te donner les mishpatim, tels que maintenant tu vas devoir les donner de façon comestible au peuple. Il faudra entrer dans les détails. Alors, on va commencer. On reviendra peut-être sur cette première phrase. Le premier de ces mishpatim,
donc, qui prend la suite?
quoi?
Ah. Ce canne.
Il a travaillé la 7e année. Il sera donc remis en liberté. Littéralement, il sortira libre, rinam, gratuitement, sans rançon, sans payer. On verra qu'est-ce qu'il pourrait avoir à payer. Im begapo yavo, begapo yetse. On va dire, s'il est entré célibataire, il sortira célibataire. S'il est entré marié, alors quand il va être libéré, bien entendu, sa femme et sa famille vont être libérés aussi. Il n'était d'ailleurs jamais vraiment esclave. On verra la suite par après. Le grand problème, le premier problème, c'est pourquoi il est appelé Eved Ivri. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi l'appeler tout à coup Ivri? Ivri, c'est un terme qui a été utilisé pour Abraham Avinu. Et ce mot Ivri, il a plusieurs significations possibles. On dit, par exemple, Ivri, c'est que Avraham était d'un côté de la rivière ou du fleuve et le monde entier était de l'autre côté. Ou bien on peut dire que Ivri, c'est qu'il est un descendant de Éver, qui est le petit-fils de Shem. Parce que son père, Terah, est aussi appelé Ivri. Et par la suite, plus personne ne s'appelle jamais Ivri, sauf Yona. Yona, dans le texte qu'on lit à Kippour, Yonah, il dit qu'il est un ivri, Anouk. Quand il se présente, quand les marins lui demandent qui es-tu, quand il est dans le bateau, que le bateau va chavirer, il lui demande mais qui es-tu? Alors il dit, je suis un ivri. Alors ici, on ne voit pas du tout pourquoi on appelle ce évêque ivri. Nous ne nous appelons plus, jamais, ivrim. D'autant plus que on parle ici, quand Hachem parle aux Bnei Israël qui sont dans le désert, qu'il leur parle de cette histoire d'esclave, il parle de quelque chose qui va se dérouler dans le futur. Les Bnei Israël n'ont pas acheté d'esclaves quand ils étaient dans le désert. Et nous sommes Israël, on est d'Israël, on est aussi appelé Yehudim parce qu'on vient de la tribu du royaume de Yehuda, qui était la tribu dominante dans le royaume qui a été déporté en dernier, quoi, celui qui n'a pas été déporté avec les 10 autres tribus. Alors c'est vrai que la langue qui est parlée, ça s'appelle l'ivrite. Mais parce qu'on ne sait pas très bien comment on pourrait l'appeler autrement. Il faudrait l'appeler la Shona Kodesh, sinon. Or, la langue qui est parlée couramment, ça n'est pas la Shona Kodesh. Donc, il reste la question, pourquoi ce bonhomme-là, qui est acheté, il est appelé Ivri, alors que on parle d'après le moment où les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël, après qu'ils se soient installés là-bas, déjà longtemps après. Alors pourquoi revenir à ce terme primitif, ivri? Mais il faut comprendre exactement d'abord de quoi on parle dans ce premier mishpat, en fait. C'est quoi les dinim particuliers? Et en quoi les dinim qui parlent de ce Eved Ivri appartiennent à la catégorie Mishpatim. Je m'explique. Si quelqu'un vend quelque chose et qu'il met un tnaï à la vente, une condition, évidemment, il faudra tenir compte de la condition. C'est ça le statut. Même si la condition que le vendeur a mise est une condition idiote, folle, etc., ou même si je ne comprends pas du tout pourquoi il met cette condition, d'accord? Mais il a mis cette condition. Et donc, la vente en question, elle ne se fait que dans ces conditions. Mais si on a mis la vente avec effectivement une condition bien précise, ben c'est cette condition-là, et c'est ça le Mishpat, la loi est que il faut faire selon la convention, selon le contrat. Or, c'est le Ribbono shel Olam qui a fait les Mishpatim du Eved Ivri, comme si c'était lui le vendeur. Et donc, il peut mettre les tenailles qu'il veut, comme tout vendeur de quoi que ce soit peut mettre les conditions qu'il veut. Et donc, il n'y a plus de question. Comment est-ce que ces lois-là relève-t-elle du Mishpatim? Réponse, bah, c'est fait partie du Mishpat parce que celui qui est le vendeur, il a la possibilité de mettre les conditions qu'il veut. Et donc, on va donner des conditions à la vente et donc à l'achat de cette personne. Sauf que nous devrions d'abord quand même comprendre, parce que c'est du coup c'est de la Torah, pourquoi Hachem a mis ces conditions-là. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces conditions? Si on a en face de nous n'importe quel vendeur, peu m'importe les conditions, si la raison pour laquelle il a décidé que la vente, elle devait se faire. Je ne sais pas, à tel et tel endroit, à telle et telle heure de la journée ou de la nuit, c'est son problème. J'ai pas, ça m'est égal. Où je veux acheter, où je veux pas acheter. Si je veux acheter, ben j'achète avec les conditions. Mais nous, c'est de la Torah. Ces Mishpatim sont de la Torah. Et donc, nous voulons savoir pourquoi et Hachem, il fait pas les choses comme ça, sans qu'il y ait de raison. Et dans toute la possibilité de notre Sechel, on voudrait comprendre qu'est-ce qu'expriment les conditions qui sont mises. Pourquoi pour le Eved Ivri, il y a ces conditions-là? Alors, premièrement, c'est quelque chose d'évident, explicite dans la Torah, en ce qui concerne celui qui se vend lui-même. Un homme, c'est une des possibilités. Un Eved Ivri peut être. Ce statut-là peut être la résultante de quelqu'un qui a décidé de se vendre, comme Eved Ivri. D'accord? Pourquoi il se vend? Ben on peut dire, bon, si je devais dire quelque chose, je dirais que, a priori, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui a peur de la vie. Parce qu'il se vend, mais du coup, il est sûr, il n'a pas de problème de chômage. Il aura une parnassa. Quand il se vend, s'il a une famille, la famille est prise en charge par l'acheteur. Mais la famille ne devient pas esclave. La famille n'a aucune obligation de travailler. Et donc, toute sa famille est nourrie, logée, blanchie. Et il n'y a pas de salaire. Parce que lui, il travaille. Et lui, bien sûr, il est aussi nourri, logé, blanchi. Mais toute la famille. Donc, déjà comme ça, on voit que ça doit être assez difficile de trouver un acheteur. Parce qu'il faut imaginer que le travail de l'esclave est un travail qui rapporte beaucoup pour que ça puisse valoir la peine à l'acheteur d'entretenir toute la famille pendant 6 ans, toute une famille avec homme, femme, enfant, complètement, avec comme seul bénéfice le travail qui doit, peut-être c'est un travail de haute précision ou de, il est un grand spécialiste de quelque chose, etc. Et c'est ça son travail. Et ça vaut peut-être la peine. Sinon, on ne comprend pas très bien, sauf si l'acheteur est quelqu'un qui le fait par précède par générosité pour la personne dont il pense que bon, c'est un pauvre type qui a peur de la vie, quoi. Bon, maintenant, il y a probablement d'autres raisons. Nous, c'est plutôt les raisons d'Hachem plutôt que les raisons de celui qui se vend. Mais en tout cas, il y a une restriction, c'est que quand quelqu'un se vend lui-même, il ne peut pas se vendre définitivement. il y a une question annexe qui est, on ne sait pas s'il peut, a priori, se vendre pour plus que 6 ans. Donc, le texte qui dit il travaillera 6 ans, est-ce que c'est standard, mais qu'on peut faire plus? A priori, c'est pas marqué dans la Guemara. Bon, ça c'est une question annexe en passant. Mais au moins, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se vendre définitivement s'il le veut? Et il y a encore d'autres lois, comme par exemple qu'il peut pas, on ne peut pas lui imposer de faire des travaux difficiles, travaux dangereux ou des travaux qui éreinte la personne. Mais pourquoi est-ce que cet esclave-là, il est différent des esclaves que j'ai achetés au marché la dernière fois que je suis allé en Arabie Saoudite? J'ai acheté des esclaves. Ces gens-là, ils sont esclaves pour toujours. Ces gens-là, on peut leur faire faire des travaux difficiles, durs. Pourquoi celui-là, est-ce qu'il a un statut différent? Oui, je ne peux pas lui faire faire ça. Alors, on pourrait dire, oui, bon, quand c'est avodat perach, ça veut dire un travail vraiment éreintant, etc., on pourrait dire que c'est jamais justifié de faire travailler un être humain de façon abusive. Même si c'est un Eved Knaani, c'est vrai qu'il n'y a rien qui l'interdit, mais c'est humainement pas défendable. Mais s'occuper de transporter mes affaires, etc., pourquoi pas? On ne peut pas lui faire faire des travaux qui sont typiquement des travaux d'esclaves. On ne peut pas lui faire faire des travaux dégradants qu'on ne demande pas à un être humain de faire. Alors la grande réponse, c'est qu'ilibne Israël avadim, avadaihem, asher otseti otam me'eretz Mitzrayim. C'est que ce qu'Hachem a dit, les Bnei Israël sont mes esclaves à moi. Ils le sont parce que je les ai sortis d'Égypte. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes esclaves d'Hachem. Je les ai sauvés. Ils étaient avadim de Paro. Et puisque je les ai sauvés, maintenant, ben, c'est moi le propriétaire de ces esclaves. À la limite, Hachem les a simplement changés de propriétaire. Je les ai acquis, je les ai enlevés à Paro, qui les faisait souffrir, et je les ai acquis, ils sont à moi maintenant, et moi je peux donner les lois que je veux donner. Bien sûr, je ne vais pas faire ce que Paro fait, mais je suis libre de faire ce que je veux. Lui, il est mon esclave. L'exemple de quelqu'un qu'on peut réduire en esclavage. Voilà. Est-ce qu'il existe une situation où vous pouvez attraper quelqu'un dans la rue, comme ça, et vous en faites votre esclave? Ça n'existe pas. Halakhiquement, ça n'existe pas, et en principe, normalement, ça ne devrait pas exister dans des relations humaines normales. Mais il y a une exception. Je pense que vous la connaissez. L'exception, c'est les prisonniers de guerre. On voit dans la Torah que quand quelqu'un était prisonnier de guerre, il devenait esclave de vainqueur. Les lois de la guerre le permettent. Et même ceux qui étaient, ceux qu'on a fait prisonniers, même si eux, en réalité, ils étaient là-bas des esclaves, ils deviennent mes esclaves. Les prisonniers appartiennent au pays vainqueur de la guerre. Ils deviennent avadim. Ici aussi, on peut dire, le Ribono Shel Olam, le maître du monde, a fait la guerre contre l'Égypte. Il a gagné. Donc ceux qui étaient esclaves en Égypte deviennent esclaves d'Hachem. Et bien sûr qu'on peut dire beaucoup de choses extraordinaires avec des drachotes, mais d'après le pshat, d'après les psukim directement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ki li bnei Israël avadim avadaihem, asher hoceti otam eretz Mitzrayim, et puis biyot shem sheli, étant donné qu'ils sont à moi, je ne les vends à personne pour avoir le droit de les faire travailler comme esclaves. Et donc, ils ne peuvent pas avoir d'autres maîtres véritables. Et même s'ils en sont d'accord, on n'a rien à faire de leur accord, ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle quelqu'un ne peut pas décider de se vendre définitivement comme Eved. Parce qu'ils m'appartiennent. Alors, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu est devenu le maître d'esclaves? Au moment où ces gens-là s'appelaient Ivrim. On voit en Égypte, ils s'appelaient Ivrim. C'est marqué dans le Passouk, Eloke ha-Ivrim nira elai. Le Dieu des Hébreux, des Ivrim, s'est dévoilé à moi. C'est comme ça que ça se présente dans la relation avec Paro. Parce qu'avant d'être libérés, les Bnei Israël, libérés les Égyptiens, ils n'étaient pas encore un peuple. Le peuple Israël, le peuple des Bnei Israël, n'était pas encore un peuple. C'était Ivrim. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il tiknait Eved Ivri. Parce que le Ribbono Shel Olam a dit, quand est-ce que mon droit d'être leur maître commence? C'est un moment où eux étaient des Ivrim. Donc c'était ça leur statut. Moi, j'ai gagné, j'ai conquis les Ivrim, je les ai sortis, ces Ivrim de l'Égypte. Donc, j'en suis le maître, je suis les maîtres du Eved Ivri. C'est pour ça que je suis le vendeur, le cas échéant. Par conséquent, dans la vente, je peux mettre les conditions que je veux. Mais on peut continuer d'interroger, de dire, écoute, je n'ai toujours pas compris pourquoi Hachem a mis ces conditions-là plutôt que d'autres conditions. Pourquoi celles-là? Ça nécessite une longue explication, en fait. Mais si tu veux savoir comment est-ce que je suis en position de mettre des conditions comme celle-là, voilà, c'est ça, je suis le maître, parce que je les ai acquis en Égypte, en les sortant d'Égypte. Alors, si on regarde toujours dans cette même phrase, c'est marqué que il va travailler 6 ans. Ubashvi'it yetzé lachofshi chinam. La 7e année, il va sortir, va accéder à la liberté, chinam, gratuitement, sans rançon, sans paiement. Pourquoi il aurait quelque chose à payer? Ce mot chinam, il a l'air d'être superflu. Pourquoi il faudrait qu'il paie? Alors, en fait, il vient nous décrire comment l'esclave va sortir au bout de 6 ans. C'est qu'en vérité, quand quelqu'un a payé pour acheter cet esclave, quand quelqu'un a payé pour acheter cet esclave, on pourrait penser qu'il l'acquiert définitivement. Peu importe que ce définitif veuille dire 50 ans. Ça, c'est un problème du cycle des 50 ans, etc., qui s'appelle l'éternité, quoi, si vous voulez. Et peu importe. Mais en tout cas, il devrait pouvoir, enfin, on pourrait penser qu'il l'acquiert définitivement parce que c'est un statut, être esclave. C'est pas un contrat. C'est un statut. Il change de statut. C'était un être humain, si vous voulez. Bon, là, en l'occurrence, ils étaient déjà des esclaves en Égypte, c'est-à-dire ils n'avaient déjà plus la caractéristique humaine aux yeux des Égyptiens. Peut-être à leurs yeux non plus, d'ailleurs. Parce que il n'avait plus aucune autonomie, il ne pouvait plus faire ce qu'un être humain peut faire. Et les lois de Paro sont des lois qui étaient extrêmement abusives en réalité, qui sont petit à petit, elles sont entrées quasiment, y compris dans l'intimité des couples, etc. Elles se sont mêlées de tout. Ça existe des régimes. Quand un régime peut décider que vous avez droit seulement à un enfant, il entre dans votre intimité conjugale. D'ailleurs, là, en l'occurrence, c'est désastreux comme on le voit maintenant. Mais donc, c'est possible qu'il y a des régimes, des façons de gouverner le monde, où effectivement, on ne se prive pas d'entrer dans la vie la plus personnelle, privée. Donc c'est un statut, Eved. C'est quelqu'un qui ne s'appartient plus d'aucune manière. Donc, on pourrait penser qu'effectivement, quand on l'acquiert quelqu'un qui a un nouveau statut. Et évidemment, ce statut veut dire que je l'ai acquis définitivement. Le problème, c'est que la Torah, elle vient, elle dit, il y a un tnaï, il y a une condition. Il n'est pas vendu pour plus que 6 ans. Mais la valeur de cet esclave, c'est sa valeur comme esclave, c'est-à-dire la valeur qu'il a en tant que quelqu'un qu'on acquiert définitivement. Et c'est ça que le verset vient nous dire. Il ne faut pas expliquer qu'après 6 ans, le Eved peut se racheter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Après 6 ans, on ne va pas faire une évaluation de combien il vaut maintenant. Et donc, on va considérer que, voilà, et on aurait dû aller jusqu'à 50 ans, disons. Et puis, voilà, pour tout ce temps-là, il faut qu'il se rachète, en quelque sorte. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il n'a pas besoin de se racheter du tout s'il veut se sortir. Parce que sinon, ça s'appellerait pas chinam. Chinam, c'est complètement gratuit. Le mot chinam ici veut dire que il n'est vendu que pour 6 ans. Et au bout des 6 ans, il sort. Parce que la vente n'allait que jusqu'à 6 ans. Ça veut dire que sa valeur, c'est sa valeur comme travailleur pendant 6 ans. Pas plus. Et donc son prix, sa valeur, c'est son prix le prix de son travail pendant 6 ans. Donc personne ne peut payer plus pour qu'il travaille plus. Après les 6 ans, l'esclave ne t'appartient plus, c'est tout. Tu n'as plus aucun droit sur lui. Tu n'as pas payé pour plus que 6 ans. C'est-à-dire qu'on a changé un statut en un contrat. C'est ça qui s'est fait. On a remplacé un statut par un contrat. Alors c'est important de dire Rinam, parce que c'est vrai qu'il est vendu pour 6 ans. Et il est vendu pour 6 ans, a priori, la grande raison pour laquelle il est vendu comme esclave, c'est qu'il a volé et qu'il ne peut pas payer. Et donc, son travail pendant 6 ans va servir à payer ce qu'il devait. Si maintenant, cet esclave-là, quelqu'un lui donne de l'argent en disant, cet argent, je te le donne à toi, à la condition que ton maître n'ait pas de pouvoir de te le saisir. Parce que normalement, ce qu'un Eved acquiert, il l'acquiert automatiquement pour son maître. Il n'existe pas, si vous voulez, comme personne. Et donc, il ne peut pas acquérir quoi que ce soit. Mais on peut lui faire acquérir avec des conditions. Et on lui donne de l'argent, quelqu'un peut lui donner de l'argent et lui dire, je te donne cet argent à la condition, comme condition, que ton maître ne puisse pas le saisir. C'est insaisissable. Donc il est à lui. Et s'il est à lui, il peut peut-être dire à celui qui l'a acheté, écoute, je veux me racheter. Et à ce moment-là, on va faire un petit calcul. Combien on a payé pour 6 ans? Et si maintenant, à la quatrième année, il veut se racheter, donc il doit racheter 2 ans. Donc, quelque part, il faut qu'il redonne un tiers du prix au propriétaire, à celui qui l'a acheté. Et à ce moment-là, il s'est racheté. Ça, c'est possible seulement parce que justement, il n'est pas vendu définitivement. Il est vendu pour 6 ans. Et on peut pas, le propriétaire ne peut pas négocier en disant que les années, maintenant que tu es habitué, ou tu es vraiment rentable, etc. Donc ces années-là, elles valent plus. Non, ça vaut, ces 2 ans, c'est un tiers du prix. On va pas dire que les 2 dernières années, c'est des années où il va vraiment rapporter parce que maintenant il sait faire le travail rapidement, sans aucun problème, etc. Le propriétaire n'a aucun droit, c'est simplement au prorata de simplement le nombre d'années qu'il rachète. Et alors, on a dit, s'il est venu célibataire, il sortira, au bout de 6 ans, il va sortir célibataire. Et s'il était marié, ben, toute la famille s'est installée chez le propriétaire, là, mais sans avoir d'obligation de travailler. Mais bien sûr, cette famille, elle va sortir en même temps que lui. Quand on dit que s'il est arrivé célibataire, il va sortir célibataire, ça veut dire que son maître ne peut pas lui donner une épouse. L'épouse qui pourrait lui donner, si dans un mariage normal, on a besoin de l'accord de l'épouse. Alors, comment le maître peut lui donner une épouse? Si le maître a une esclave cananéenne, c'est-à-dire une esclave goy, qui elle est esclave éternelle, quoi. Elle va pas sortir au bout de 6 ans. Alors on pourrait imaginer qu'il lui dise, écoute, voilà, j'ai une femme, je te la donne, quelque sorte, au sens où je te permets d'avoir des rapports avec elle. Bien entendu, s'il y a des enfants, les enfants seront mes esclaves. Ils sont des enfants d'esclaves, ils seront mes petits esclaves. Et quand tu sortiras au bout de 6 ans, cette femme avec laquelle tu as pris des habitudes, cette femme, elle ne sort pas avec toi. Celle-là, elle reste chez moi, c'est mon esclave. Alors ça, lui donner une esclave cananéenne, ça n'est permis à son propriétaire que si lui est déjà marié. Il a déjà une femme. Entre autres, s'il n'a pas de femme, et si on lui avait donné, si on pouvait lui donner à ce moment-là une Shifra Knaani, il aurait peut-être il voudrait rester dans cet état-là pour rester avec elle, puisqu'il ne peut pas la prendre avec, mais il peut rester, il pourrait choisir et vouloir rester dans son état. Il voulait prolonger les 6 ans. Et on n'est pas intéressé à ça. Le problème, c'est pourquoi est-ce que on a utilisé ce terme de begapo. Begapo veut dire tout seul. Donc s'il est venu seul, il repartira seul. Mais c'est pas comme ça que ça s'explique. Rashi dit Begapo Beknafo. Beknafo, pardon. C'est-à-dire, littéralement, il est venu dans son manteau, si vous voulez, il repartira tout seul dans son manteau. Mais est-ce qu'on n'a jamais vu quelqu'un, que un homme et sa femme qui mettent le même manteau ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire que s'il n'était pas marié, on met l'accent que il est tout seul dans son manteau. Alors, Rabbi David Feinstein dit ici quelque chose de personnel. Il dit, moi je dirais que l'expression veut dire knaf, c'est knaf me'ilo, c'est-à-dire c'est le coin, comme on dit dans la paracha de Tzitzit, le troisième paragraphe du Shema. Knaf. Ça veut dire que il est sous le pan de son manteau personnel. Il vient sans des vêtements qui montreraient qu'il est marié. Par exemple, dans les communautés, on pratique les choses comme ça. À part, il y a beaucoup de communautés dans lesquelles quelqu'un qui n'est pas marié, il met pas un talit à la choule, il met pas de grand talit. Il met un talit seulement quand il est marié. Donc c'est mettre un talit à la choule, c'est un signe qu'on est marié. Alors c'est pas vrai chez tout le monde, mais enfin. C'est vrai dans certaines communautés. La façon de mettre son talit, c'est révélateur en quelque sorte. Alors, les Juifs allemands, les Sfaradim, etc., ils mettent des talitot même dès qu'ils sont bar mitzvah. Et en vérité, on devrait mettre un talit dès qu'on est bar mitzvah. Mais le minag est de ne mettre des talitot, les gens ils ont un talit katan, mais le grand talit à la choule, ils ne le mettent que quand ils sont mariés. Et par exemple, il y a des communautés où les gens mariés faisaient la prière avec leur chapeau. Et dans certaines communautés, on a pris l'habitude de mettre le talit sur la tête. Mettre le talit sur la tête dans les communautés où les gens priaient en chapeau, ça voulait dire qu'on est un grand talmi, on est un talmid racham. Mais dans les communautés polonaises ou autres, ou chassidiques, ou même lituaniennes aujourd'hui, n'importe quelle personne mariée met un talit et met son talit sur la tête. Donc ça veut dire c'est significatif. La façon dont il y a des vêtements qui sont des vêtements. Alors, dans d'autres communautés, quand quelqu'un se marie, il va mettre un shtramel ou un spodek. Bon. Jusque-là, il mettait un chapeau. Il y a un passouk dans la Megillah de Ruth où on dit Uparasta knafecha alamatra ki goelata. Tu mettras ton vêtement sur ta servante, parce que tu es le libérateur, tu es mon libérateur. Ceux qui ont l'habitude, justement, de mettre un talit sous la choupa, c'est aussi une forme qui montre le mariage. Être sous le même talit. C'est-à-dire que le talit, c'est un ornement, un peu comme l'anneau que porte une femme mariée. A priori, enfin, dans certaines communautés en tout cas, les hommes n'ont pas l'habitude de mettre un anneau qui indique qu'ils sont mariés, mais ils mettent le talit sur la tête. Ou ils mettent le grand talit, je crois. Donc s'il a un vêtement qui n'est que pour lui, si vous voulez, ça veut dire que il n'est pas marié. C'est ça qu'on veut dire. La Torah, elle utilise cette expression-là pour dire qu'il n'est pas marié. Et maintenant, si effectivement il est marié, et que son, c'est pas une obligation, et que son maître lui donne une chifra cnaanite. Et quand il arrive aux 6 ans où il faut, où on lui dit, Madame, maintenant tu es libre, il dit, Avti et Adoni, j'aime mon maître, j'aime ma femme, mes enfants, lo etse chofshi, je ne veux pas être libre. Alors, il y a une procédure. On va l'amener au tribunal. Pourquoi on l'amène au tribunal? On l'amène au tribunal pour que les Chachamim lui expliquent qu'il n'a rien compris, qu'Hachem ne nous a pas fait sortir d'Égypte pour que nous soyons esclaves. Esclaves de gens qui sont eux-mêmes esclaves d'Hachem. Mais maintenant, si il persiste et signe, comme on dit, alors on va le marquer. On va le marquer en le poinçonnant, en poinçonnant le lobe de l'oreille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui poinçonnent le lobe de l'oreille pour mettre des boucles d'oreilles. Mais lui, je ne sais pas s'il pouvait mettre une boucle d'oreille dans son lobe. Je sais pas. Et donc, on va le mettre à la porte de la maison, sur les poteaux de la maison, contre la maison, et on va le poinçonné en quelque sorte. Va-vado le olam. Et à ce moment-là, il va pouvoir servir son maître le olam, pour toujours. Le pour toujours, je vous ai dit, ça dure cinq, ça va au maximum au yovel. Le yovel, donc tous les 50 ans, c'est le grand cycle. N'est-ce pas? Il y a le cycle de la semaine, tous les 7 jours, c'est Shabbat. Il y a le cycle des mois, il y a le cycle des années, il y a le cycle de la Shemitah, 7 années, tous les 7 ans, c'est l'année sabbatique. Et quand on fait 7 fois 7 années, il vient le yovel, le jubilé, c'est-à-dire 50 ans. Et c'est ça qu'on appelle toujours l'éternité, quoi. Et quand on dit il va le servir son maître jusqu'à l'éternité, jusqu'au yovel. Mais le yovel peut très bien être la première année qu'il ou après la 7e année s'il a décidé je veux continuer d'habiter de vivre chez mon maître. Mais quand si le yovel tombe la 7e année ou la 8e année de son esclavage, il va être obligé de sortir. Mais tous les esclaves vont être libérés à ce moment-là. C'est pas sûr que la servante, elle voudra vivre avec lui. Elle n'avait pas le choix quand elle était esclave. Mais peut-être maintenant qu'elle est libre, elle ne voudra pas. Alors, le grand paradoxe, c'est que dans son discours, il parle de ma femme et mes enfants. La femme qu'il aime, les enfants qu'il aime, c'est l'esclave. Et les petits-enfants qui sont esclaves qu'il a eus. Alors que ce bonhomme, il a une femme avec laquelle il est marié, avec laquelle il a peut-être des enfants. Je vous dis pas le climat dans le couple en question. Mais bon, ça c'est pour, si vous avez envie d'écrire un livre, vous pouvez. Alors, bien entendu, dans la Torah, c'est écrit le Olam. Rashi explique, ça veut dire c'est le Yovel. Ok, très bien. La question c'est, pourquoi est-ce qu'on a écrit le Olam alors que c'est le Yovel? Le Yovel, c'est un mot qui existe dans la Torah. Pourquoi on n'a pas écrit le Yovel? Pourquoi on écrit le Olam? Comprendre. Il y a plein de mots ici dans cette paracha, la paracha de Mishpatim, où les mots comptent. Il faut expliquer pourquoi on a mis des drôles de mots, dans de drôles de situations. Alors, une des réponses, c'est de dire qu'en vérité, après que tu as acheté un Eved Ivri, cet Eved Ivri, il est encore un Israël. Il est juif quand il s'est vendu, et après être vendu, il est toujours Israël. C'est un chidouche. Parce que un Eved, au sens habituel du terme, Eved Knani, ça n'est quasiment pas plus un homme. Il est considéré comme un meuble. D'ailleurs, halakhiquement, un Eved Knani, c'est un immobilier mobile. Il est traité, les avadim sont traités du point de vue juridique comme des biens mobiliers, des biens immobiliers, pardon. Il est astreint à toutes les mitzvot de la Torah. Ce n'est pas parce qu'il est évêque qu'il est dispensé de mitzvot. Il a aussi un interdit pour un homme libre, mais qui s'adresse à tout juif. Un juif ne peut pas épouser une esclave. Donc comment se fait-il qu'on lui permet qu'on permet à son maître de lui donner une esclave. Comment se fait-il qu'il a le droit d'épouser une esclave? C'est un juif. Il n'a pas le droit d'épouser une esclave. Pourquoi on lui permet cette relation qui est de type efker? Parce que c'est une relation sans aucune responsabilité. N'est-ce pas? Il a un rapport avec cette femme. Mais il doit ni la nourrir, ni la loger, ni la blanchir. Et il a aucune responsabilité sur les enfants qu'il va avoir avec elle. Il n'a aucune obligation à son égard. Aucune. Donc c'est vraiment FK, quoi. C'est n'importe quoi. Et ne dis pas que le maître va lui donner cette épouse avec Chuppa et Kiddushin. Il n'en est rien, c'est pas vrai. Elle lui aimait même pas, c'est même pas une femme qui lui est réservée. En fait, le maître, il pourrait très bien donner cette chiffre à deux personnes, à deux, s'il avait deux Eved Ivri, il pourrait la donner à tous les deux. C'est lui qui gère. Il fait ce qu'il veut avec la chiffre. Donc, de ce point de vue-là, c'est exactement comme la même efkeirout que pour un Eved Knaani. C'est que, pourquoi c'est comme ça? Parce que le Eved, il doit servir son maître comme un Eved. Comme un véritable Eved. N'est-ce pas? Vous entendez bien depuis le début que ce n'est pas un véritable Eved, puisque c'est pas. C'est un espèce de Eved qui est la résultante d'un contrat. Si c'est un contrat, alors ce n'est pas un statut. Mais il s'est vendu comme Eved. Et donc le service doit être comme le Eved. Donc d'une certaine manière, quand il s'est vendu comme Eved, il a quasiment enlevé sa dimension humaine, en fait. Il est quasiment comme un animal. De la même manière qu'un animal, dans ce domaine-là, il n'a aucune limite. Lui non plus. C'est vrai que cette avdoute, elle ne va durer que 6 ans. C'est vrai qu'on ne va pas pouvoir lui faire faire des travaux, comme on a dit, des travaux spécifiquement esclaves. On n'a pas le droit de lui faire honte, on n'a pas le droit de lui faire faire des travaux complètement dégradants. Néanmoins, c'est un Eved, il est un Eved. Et parce qu'il est Eved, quelqu'un qui a perdu le titre Adam, il est devenu Eved. Un Eved, c'est pratiquement pas un homme. À la limite, ça n'est pas pour lui qu'il y a des restrictions. C'est pour que le propriétaire ne se permette pas n'importe quoi avec lui. Et donc, parce qu'il a perdu ce titre de Adam, qui est devenu Eved, alors tu peux lui donner une chiffra. Un Eved, en tant qu'Eved, il m'est permis de d'épouser une chiffra. Parce que comme cela, Akadosh Baruch Hu lui montre qu'il est Eved. Sinon, il est pratiquement comme un employé, peut-être même privilégié. Eved Ivri Moutar Beshifra, exactement comme un Eved Knaani. De la même manière que les enfants d'un Eved Knaani ne lui appartiennent pas, de la même manière, les enfants du Eved Ivri avec sa Chifra ne lui appartiennent pas. Après 6 ans, le Eved sort. Mais ses enfants, ils restent esclaves. Et eux, ils sont esclaves Knanim. Ça se passe comme s'il y a un juif qui a un rapport en dehors de la Havdout. Si un juif a un rapport avec une esclave, les enfants ne sont pas ses enfants et les enfants sont esclaves. Yatsa, Begapo. Lui sortira toujours tout seul au sens, il sortira sans la femme avec laquelle il n'est pas arrivé, quoi. Un chiffre aklanit. C'est ça le pshat de Avavado le Olam. Ça veut dire, comme la véritable autorité, éternité, si vous voulez, que l'éternité, c'est pas simplement, c'est pas du tout qu'on remplace le fini par l'infini. Chaque moment dans l'éternité a une autre dimension que un moment dans le temps fini. C'est une qualité, c'est pas une durée plus longue, l'éternité. C'est une qualité du temps, c'est un autre temps. C'est ça le olam. Le olam, c'est les... Voilà, c'est autre chose. Il vit dans un autre temps. D'une certaine manière, quand on dit que lui, il va vivre éternellement esclave, c'est parce que ses enfants, qui sont une prolongation biologique en tout cas de lui, ces enfants vont être esclaves définitifs. Eux, ils sont pas des esclaves de 6 ans. Eux, ils sont des esclaves du jusqu'au Yovel. C'est la dimension esclave le Olam qu'il y a chez lui. Et ils disent, on peut peut-être penser que c'est ça le pshat. Quand la Torah nous dit, Vim Amor Yomar à Eved, si le Eved ivri dit, Ravti et Adoni, donc j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, c'est-à-dire que si le Eved pense aux enfants qu'il a eus de cette chifra comme étant ses enfants, alors en fait, il reste esclave pour toujours. Quelque part, il va sortir 6 ans, au bout de 6 ans, mais dans sa tête, il est esclave. Parce que ses enfants, ceux qu'il considère comme ses enfants, sont esclaves. Ils vont rester auprès de son maître. Donc une partie de lui-même reste le olam auprès du maître. Oui, Mamar, encore une fois, sur ce verset, Avti, Tadoni, Etishti, etc. Un homme doit savoir qu'en vérité, il est libre. Il est libre par rapport à tout maître de chair et de sang. Parce qu'il n'a au-dessus de lui, il n'a que Ribono Shel Olam, il n'a que le maître du monde. C'est-à-dire, il faut penser qui me paye à la fin du mois? C'est le Ribono Shel Olam qui me paye. Je suis libre. Ce maître que j'ai, mon patron, il n'est pas, c'est pas lui qui, lui me paye rien du tout. C'est Hachem qui décide de ma parnassa. C'est lui qui décide ce que je vais recevoir. Et je recevrai selon ce qu'il a décidé, ni moins, ni plus, ni moins. On n'a pas le droit de dire que se dire si je travaille pas pour ce patron-là, alors c'est la fin du monde, je pourrais pas avoir ma parnassa, etc. C'est pas vrai. C'est le Ribbono Shel Olam qui te donne la part à laquelle tu as droit. C'est toi qui décides que tu vas le recevoir de cette manière-là, a priori. Ou de cette manière, de cette autre manière. Peut-être que tu as raison. Peut-être que les efforts que tu fais il peut très bien que, effectivement, ce soit considéré comme un effort valable dans la bonne direction pour recevoir de cette manière-là ta part. Par exemple, c'est pas la même chose de recevoir sa part parce qu'on a travaillé ou de recevoir sa part à supposer même qu'elle soit exactement la même parce qu'on est payé par le chômage. On n'a pas le même regard sur soi-même si on est payé par le chômage, si on est payé par suite d'un travail. Ou bien si on est payé par, disons, par générosité de quelqu'un. Comment est-ce qu'il est arrivé à devenir esclave, celui-là? Parce qu'il a volé. Mais s'il a volé, ça veut dire il ne croit pas que cette chose-là lui serait arrivée sans voler. S'il a volé 100 euros, il a simplement perdu son temps. Parce que ces 100 euros, par exemple, il lui serait arrivé de toute manière. Mais maintenant, il l'a obtenu ce qu'il aurait dû obtenir de toute manière, mais il l'a obtenu en faisant un issour. S'il avait travaillé pour ces 100 euros, ça aurait été bien mieux pour lui. Il peut se réjouir effectivement de sa part. Mais maintenant qu'il a volé, ben, il dépend des autres. Il dépend complètement de son maître. Et du coup, il n'est plus libre. Mais c'est lui qui s'est enfermé. Et quand il dit j'aime mon maître, etc., c'est comme s'il disait pourquoi est-ce que j'aime mon maître? Parce qu'il me donne tout ce que je veux. Il me donne même une femme, des enfants. Et donc, si je le quitte, je vais perdre tout ça. Mais en vérité, il n'a rien obtenu du tout du maître. Seulement, il croit que c'est le produit de son travail, en fait. Je me suis fait moi-même. Il pense que il peut grandir, réussir tout seul. Il pense qu'il n'est pas dans la main du Ribbono Shel Olam. Il ne croit pas à ce qui est écrit dans la Mishnah, que dans toutes les occupations, dans tous les artisanats, dans tous les travaux, il y a des pauvres, il y a des riches. C'est pas ce travail qui rend obligatoirement riche ou ce travail qui rend obligatoirement pauvre. Ça dépend de sa conduite. Quand il dit je veux pas sortir libre, ça veut dire je suis dépendant d'autres personnes et je ne veux pas de la liberté. Je suis dépendant de quelqu'un, mon maître, qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Il me donne une parnassa, une femme, des enfants. Comment est-ce que je peux le quitter? Ça veut dire que tu as échangé la liberté contre l'esclavage. Parce qu'en vérité, c'est Hachem qui te donne tout cela. Mais toi, tu ne le reconnais pas. Tu ne reconnais pas que ça vient d'Hachem. Donc tu es éved l'olam. Le mi, shata chosheb kol sorkecha. Tu es éved de celui dont tu penses que c'est lui qui te donne tous tes besoins, qui comble tous tes besoins. Si tu dis je veux pas sortir. Je veux pas être libre. Ça veut dire que les 6 années de Avdout, c'était pas un état qui était contre ta volonté. C'était un plaisir pour toi. Parce que tu n'avais aucun souci, aucune responsabilité. Si maintenant tu regardes toute ta période d'esclavage comme cela, ça veut dire que tu as décidé d'être esclave le olam. Quand le pasouk dit va vado le olam, il va lui servir éternellement. Bien que la kavana soit, il va seulement le servir pendant jusqu'au Yovel. Parce que ça veut dire que même quand tu seras sorti au Yovel, tu seras encore Eved Leolam. Tu seras encore dépendant de quelqu'un d'autre. Tu seras toujours à penser que c'est Ploni, c'est machin qui me donne un parnassa. C'est machin qui me donne du travail. C'est ce que tu penses. Mais en vérité, c'est Hachem qui te donne tout ça. Bien sûr, ça passe par cette personne-là. Peut-être qu'effectivement, tu as une dette de reconnaissance à l'égard de cette personne. Parce que lui, il aurait peut-être pu prendre quelqu'un d'autre. Tu peux pas aller le cracher dessus et lui dire j'ai pas besoin de toi. Ben, il est quand même celui qu'Hachem a envoyé pour te nourrir, en fait, pour t'assurer ta part dans ça. Mais il n'est pas ton maître. Et c'est pour ça que le verset dit Va'avado le'olam. Parce que même quand il va sortir, quand Yovel sera venu, en vérité, il peut se revendre comme esclave. Il n'est pas obligé d'être libre. Et si dans sa tête Qui préfère être esclave? Ben, il peut toujours être esclave. En fait, c'est ce qu'il va faire, certainement, avec la mentalité qu'on lui connaît. Parce que c'est comme ça qu'il se regarde, c'est comme ça qu'il se voit. C'est comme ça qu'il pense et qu'il se pense. Quand on s'est marqué Vavado Leolam, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a décidé que après le Yovel, tout le monde est libre. Bon, après, tout recommence. Après, les gens qui veulent ne pas l'être, ben, ils peuvent ne pas l'être. Mais tout le monde, à un moment, puisque c'est tous les 50 ans, c'est à peu près, presque tout le monde a une chance, à un moment donné, d'être et de comprendre qu'il est vraiment libre. Alors, des fois, il faut du courage pour accepter d'être libre. Et des fois, ça peut être difficile, jusqu'à très difficile. Voilà, on va s'arrêter là.